autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour pénétrer dans l'intimité de nos cousins chimpanzés, mes frères de la forêt. C'est le titre du dernier ouvrage de la primatologue Sabrina Krief, notre invitée, internationalement reconnue pour ses découvertes sur l'automédication des grands singes. Sabrina et son mari, le photographe Jean-Michel Krief, suivent depuis 10 ans, plus de 10 ans, dans le parc national de Kibale en Ouganda, une des plus denses communautés de chimpanzés au monde. Au fil des ans, cette habituation réussie permet à Sabrina de les reconnaître individuellement par leur prénom et de nous faire découvrir leur personnalité, leur humeur et leur humour, mais aussi leurs histoires et leur parcours de vie fortement menacés par la destruction de leurs habitats. Comment ces chimpanzés parviennent-ils à s'adapter à la présence croissante des hommes sur leur territoire? Et comment les hommes pourraient à leur tour gagner, à leur faire une place? Voilà ce que nous vous proposons de découvrir autour de la question « Pourquoi et comment écouter les chimpanzés ?» On ouvre grand nos yeux et nos oreilles, on se fait aussi discret que possible sur les traces de Sabrina Krief dans la grande forêt équatoriale. Bienvenue.
Là, on dirait que le petit est en train de jouer avec les branches, c'est ça? Alors là, il se balance complètement dans les branches. Oula, oula, oula. Il attrape les deux branches avec ses mains et puis il voyage dans les arbres. Oula. C'est encore un petit parce qu'il a la tête toute rose et des grandes oreilles. Il nous regarde, je crois. Là, on a une maman et son petit. Ils sont intrigués par notre présence. Et c'est aussi de la curiosité. On est autant observés que nous.
Observe qui, Sabrina Krief, bonjour.
Bonjour. Bah, effectivement, la première rencontre, souvent, on a l'impression d'être des intrus dans cette forêt. Et petit à petit, notre objectif, c'est de ne plus être observé. Et au contraire, le plus grand succès, c'est quand ils nous tournent le dos et qu'ils deviennent complètement indifférents à notre présence.
Et que du coup, ils sont habitués, on va y venir. Hein. C'est ça, l'habituation. Merci en tout cas beaucoup d'être en direct avec nous, puisque vous êtes à Paris avant de repartir cet hiver en Ouganda. C'est toujours un énorme plaisir de vous recevoir, Sabrina, pour partager entre autres ces moments inouïs, donc recueillis à vos côtés. Cette fois-ci, c'était notre reporter Alice Milo, il y a quelques années déjà, hein, dans le parc de Kibale en Ouganda. Ça fait plus de 10 ans, Sabrina, que vous travaillez avec et sur les communautés de chimpanzés de Sébitoli. Je rappelle que vous êtes vétérinaire, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, internationalement reconnu pour vos découvertes sur l'automédication des chimpanzés. Vos travaux portent aussi sur l'effet des activités humaines, sur les comportements et sur la survie des chimpanzés. Des travaux que vous menez en étroite collaboration avec les communautés de villageois sur place, car le destin de ces hommes, de ces femmes et celui de leurs frères de la forêt, pour reprendre le titre du très inspirant livre que vous venez de publier aux éditions Actes Sud, est indissolublement lié, on va y venir. Avant de pénétrer grâce à vous dans l'intimité de ces chimpanzés, mes frères de la forêt, dites-vous. Précisons tout de suite, il y a quelque chose qui vous hérisse le poil, au sens propre comme au sens figuré. C'est quand on parle du singe en général. Vous le dites au début de ce livre, le singe médecin, le singe le plus proche parent de l'homme. Dire que vous travaillez sur le singe ou les singes, ça n'a pas vraiment de sens, Sabrina Krief, c'est ça?
Bah, déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 500 espèces de primates, et donc de parler du singe, quelle espèce? Est-ce qu'on parle du chimpanzé, du ouistiti, du macaque, du babouin? C'est des espèces complètement différentes, qui ont des organisations sociales, des modes de vie, des comportements très différents. Et ensuite, même si on me demande si je travaille sur le chimpanzé, bah, là aussi, ça me semble étrange, parce que les animaux, et tout particulièrement les chimpanzés, mais les autres espèces aussi, ne sont pas interchangeables. Donc on parle bien d'une diversité de tempérament, de comportement, d'individualité, de personnalité. Donc tout ce que j'apprends sur cette communauté de chimpanzés et sur ces individus ne peut pas forcément être extrapolé à tous les chimpanzés. Et c'est bien ça qui est passionnant, c'est que chaque groupe a sa propre culture, ses propres usages, et c'est ça qu'on veut découvrir.
Effectivement, chaque groupe, hein, chaque communauté de chimpanzés, mais aussi ce sont des individus, vous les appelez d'ailleurs dans ce livre, c'est ça, vous nous faites partager votre carnet de bord sur place, c'est assez étonnant. prénoms, on s'y attache. Alors, il y a Elliot, Kitaka, Aikiki, Aragon, Kimchi, Cléo, vous les connaissez tous.
C'est nous qui les avons nommés, en fait, puisque quand on est arrivé, ces chimpanzés n'avaient jamais rencontré d'humains autrement que sur la route qui traverse leur territoire, puisqu'on est dans un endroit fortement anthropisé, ou bien dans les champs quand ils vont chaparder du maïs. Mais sinon, aucun humain n'avait pénétré pour essayer de les suivre. Et donc le travail d'habituation consiste à se faire accepter sans jamais utiliser de nourriture, simplement par la répétition des contacts, et donc de gagner leur confiance petit à petit. Et ça prend très longtemps, ça demande beaucoup de patience, de persévérance. Mais ensuite, le résultat est juste formidable.
Ça demande des années, hein, effectivement, pour que, comme vous le disiez, ils vous tournent presque le dos ou qu'ils vivent leur vie sans se soucier de vous. Il ne faut jamais leur donner de nourriture, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient liés à vous, c'est ça. Il faut que vous soyez quoi ? Invisible, vous fassiez partie de la forêt
Il faut qu'on fasse partie de la forêt et pas quelque chose d'intéressant dans la forêt, donc encore moins qu'un arbre, hein, puisqu'un arbre pour eux, c'est là où on se nourrit, là où on dort, etc. Donc quelque chose d'assez le plus insignifiant possible, dont on n'attend rien, et ce qui explique aussi qu'on n'a jamais de geste d'agressivité envers nous. Ils n'attendent rien, ils n'attendent pas de nourriture, ils n'attendent pas forcément de protection, même si on fait le maximum, effectivement, pour les protéger. Mais pour nous, c'est ça qui nous permet d'entrer vraiment dans leur intimité et d'essayer de les perturber le moins possible. Donc pour cela, on garde 10 mètres de distance avec eux, au minimum. Et donc, ça veut aussi dire qu'on obtient, par exemple, pour mon travail de vétérinaire, que ce qu'ils veulent bien nous donner, des urines, des crottes, mais pas de prise de sang, pas de palpation, pas de contact physique. Et donc ça demande aussi de travailler en tant que chercheur sur des protocoles qui soient donc qu'on appelle non-invasifs, donc ils n'interviennent pas sur le déroulement de la vie et de la santé des chimpanzés.
Donc il faut de la patience, on l'a bien compris, beaucoup de temps, de la persévérance, une forme physique. Je crois que vous revenez des États-Unis, vous avez fait le marathon, parce qu'il faut pouvoir courir après les singes dans la forêt. Et puis il faut aussi une sacrée dose d'humilité, se faire oublier. Et vous avez, avec beaucoup d'humour, vous racontez l'importance de votre crototèque, c'est ça, pour comprendre, avoir découvert notamment l'utilisation qu'ils font de médicaments, enfin de plantes médicinales dans la forêt, les crottes des chimpanzés, ça vous aimez beaucoup ça.
Oui, c'est un peu le Graal. Donc, au départ, c'est ce qui nous a permis d'avoir des informations sur la façon dont ils utilisaient leur territoire. Donc, c'était simplement des sortes de repères dans la forêt qui nous permettaient de dire, ils sont passés là il y a une heure, 10 minutes, 3 jours, en fonction de l'état de dégradation de la crotte. C'était pas des crottes individualisées. Et puis, petit à petit, une fois qu'on arrive à savoir qui a émis quelle crotte, ça nous permet à la fois de suivre leur état de santé par le biais de la parasitologie et puis de la consistance, on sait lequel a des problèmes digestifs, etc., mais aussi de retracer leur généalogie, puisque dans l'entourage des crottes, on trouve des cellules du tube digestif, donc des cellules de l'individu qui vont nous permettre de connaître son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et donc de retracer l'histoire de la communauté que l'on suit. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que à la fois, on obtient des informations sur leur vie familiale en les observant, mais on arrive aussi à remonter le temps, en quelque sorte, et tout ce travail de recherche qui est passionnant, on n'arrive pas forcément à le détecter en lisant les publications, et pour moi, c'était vraiment important, au travers de ce livre, de faire partager ces espèces de puzzles, ces jeux de pistes qui sont juste fabuleux et qui me rendent toujours autant curieuse dès que j'arrive sur le terrain, d'en apprendre plus sur eux.
Ça marche, hein, parce qu'à la fois, on se dit, oh là là, quel courage quand même et quelle patience. Et en même temps, on n'a qu'une envie, c'est de vous suivre. On peut se demander depuis quand et comment, justement, les primatologues comme vous se sont mis à écouter véritablement les chimpanzés, à les suivre de loin, comment notre regard a évolué. Il faut remonter au moins aux années 70, hein, et notamment à l'arrivée sur le terrain de femmes, tiens donc, primatologues, comme nous l'expliquait ici même une philosophe des sciences, Chris Herzfeld, elle-même photographe et spécialiste des relations entre les humains et les grands singes. On l'écoute.
Les primatologues restent de longues années sur le terrain. Donc ils sont capables d'examiner les généalogies, les histoires de vie, les habitudes, les traditions. Et c'est comme ça que Jane Goodall verra que son chimpanzé favori, David Graybird, utilise des outils et même fabrique des outils. Donc on va voir des comportements qu'on n'avait jamais observés parce qu'on n'était pas dans les dispositifs qui permettaient de les observer.
Vous êtes d'accord avec Chris Hersfeld, Sabrina Krief, ou encore avec Vinciane Després, hein, chercheuse qui disait finalement que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions. C'est ça aussi, en fait. C'est votre position face à ces chimpanzés,
oui,
face
c'est...
à mes, ces frères de la forêt.
C'est aussi un peu le sens de ce titre, c'est-à-dire qu'on veut faire partie de leur vie pour mieux pouvoir les comprendre, et ces individualités, ces tempéraments, il faut du temps pour les découvrir, et c'est bien pour ça que sur place, on a une équipe fabuleuse de 25 Ougandais qui travaillent dans la forêt, mais qui viennent des villages les plus proches, et qui, eux, par le biais des protocoles scientifiques, collectent des données de façon absolument rigoureuse, ce qui n'empêche pas de découvrir que Elliot n'a pas le même tempérament que Albert ou que Butchaman. Et ça aussi, c'est quelque chose qui... peut-être a pris du temps au niveau scientifique à être accepté, mais que quand on parle avec les locaux, semble tellement évident. C'est-à-dire que...
qu'ils ont chacun leur personnalité.
Leur personnalité, que ce ne sont pas des individus interchangeables, que effectivement, cette proximité, elle existe. Nous, on semble la redécouvrir et il nous faut la génétique pour dire oui, nous sommes génétiquement très proches, à 98%. Mais quand on parle avec les villageois, pour eux, c'est écrit dans leur histoire. Enfin, ils ont des totems, des clans qui les rapprochent de ces individus de la forêt.
À ce sujet, un sujet de l'ADN, à nos auditeurs sur les réseaux sociaux au Bénin, il s'appelle Maurice Assogba, il nous demande justement si c'est vrai que les chimpanzés et les hommes ont pratiquement le même base d'ADN, et si oui, comment se fait-il que nous soyons si différents ?
Alors, effectivement, il y a certains aspects qui nous semblent nous sauter aux yeux, ce sont les différences, mais les similarités, on les oublie, et génétiquement, en fait, les chimpanzés sont plus proches des humains qu'ils ne le sont des gorilles. Et ça, c'est absolument étonnant quand on y pense. Sur le fond, le fait que les chimpanzés aient des cultures, qu'ils utilisent des outils, qu'ils les fabriquent, même pour les populations locales, ça semble relativement évident, mais c'est quelque chose qui est absolument incroyable. C'est-à-dire d'aller chercher une termite ou une fourmi cachée au fond d'une galerie avec une brindille, alors que ce n'est absolument pas visible, façonner une baguette de la bonne longueur, ou bien utiliser un assemblage de pierres qui vont servir soit d'enclume, soit de cale, et puis ensuite de marteau, c'est des processus complexes que peu d'espèces animales
Ça veut dire prévoir, ça veut dire anticiper, ça veut dire pouvoir mettre en œuvre quelque chose. Et vous avez, vous, démontré ou découvert, entre guillemets, hein, parce qu'effectivement, je pense que les gens, les hommes, les femmes qui habitent à côté des singes dans la forêt le savent, découvert que les singes, alors on a dit qu'ils étaient pharmaciens ou qu'ils étaient médecins, en tout cas qu'ils étaient capables de s'auto-médicamenter, de se soulager... et du coup de nous permettre à nous humains de nous servir de leur savoir pour peut-être utiliser d'autres molécules, notamment antipaludiques, etc. Mais comment vous avez montré ça?
Le principe peut paraître simple. On se dit, on suit un chimpanzé malade, un chimpanzé sain, dans à peu près le même laps de temps, et on essaye de comparer ce qu'ils consomment ou ce qu'ils utilisent comme plantes de la forêt. Alors sur le papier, c'est effectivement très simple. Sur le terrain, c'est très compliqué, parce que les chimpanzés ont un système social fission-fusion, donc
fission-fusion.
Voilà, donc un peu comme les humains encore. Le matin, on se réveille avec notre mari et nos enfants, par exemple. Dans la journée, on est au bureau avec d'autres personnes. Le midi, on va retrouver encore d'autres personnes. Puis le soir, on va au théâtre avec encore d'autres individus.
Et
chez les chimpanzés, c'est exactement pareil. Donc, on n'a jamais l'ensemble de la communauté rassemblée. Et au fil de la journée, ils vont changer de partenaire. Et du coup, c'est extrêmement difficile de pouvoir suivre un individu en particulier, tout particulièrement quand on ne veut pas rentrer au sein du groupe pour
déranger leur organisation.
Voilà, donc suivre deux chimpanzés quasiment en même temps, celui qui est malade et celui qui n'est pas malade, c'est déjà compliqué. Mais il faut aussi réussir à détecter les individus malades, faire le diagnostic de la santé, puis à chaque instant, essayer de savoir ce qu'ils consomment. Parce que l'idée, c'est que si la plante a vraiment une activité biologique et est comme un médicament, ce chimpanzé ne va pas en consommer des grosses quantités, sinon il va s'empoisonner. Donc ce sont souvent des très petites quantités qui sont consommées, donc des instants très furtifs, et le moment généralement où le chimpanzé va s'écarter du groupe pour aller prendre quelque chose de différent, c'est ce moment-là qui est difficile à observer. Mais avec de la patience, et
avec
en
beaucoup de patience, ouais.
Voilà, en connaissant bien le régime alimentaire habituel des chimpanzés, donc ce que sont vraiment les aliments qui nourrissent, on arrive à voir certaines plantes, des écorces par exemple, ou des racines, qui sont consommées très rarement, et par des individus, soit qui sont gênés au niveau respiratoire, qui ont de la diarrhée, ou qui sont abattus. Et ça nous donne des indices sur les plantes à collecter, à travailler au niveau chimique. On teste leurs activités biologiques, donc par exemple sur l'agent du paludisme, ou bien sur des bactéries. Ça nous a permis de mettre à jour des molécules nouvelles qui n'avaient jamais été décrites auparavant à partir des plantes que consommaient les chimpanzés, particulièrement des plantes à activité antipaludique.
Antipaludisme, hein, ça fait partie aussi du travail que vous faites quand vous revenez au muséum, hein, parmi votre travail ici, mais c'est aussi parce que sur place, en Ouganda, sur le terrain, vous connaissez ces chimpanzés, vous ne les nommez pas juste pour le plaisir de leur donner un nom, mais vous les nommez parce que vous reconnaissez leur tête, vous les reconnaissez vraiment, on le voit bien quand on vous suit dans ce livre Mes frères de la forêt, dans vos carnets de route, en plus très joliment illustré par une de vos étudiantes, vous les reconnaissez, on finit nous-mêmes sur certains portraits par arriver à les reconnaître.
Oui, alors au premier coup d'œil et même de loin, en fait certains sont très facilement malheureusement distinguables des autres. Ce sont ceux qui ont eu des mutilations à cause des pièges. Mm-hmm. Donc certains, par exemple, sont mutilés au niveau des pieds, il leur manque un pied, une main, et puis ça peut être des traces de combat, des petits morceaux d'oreilles en moins. Mais tout simplement, même de dos, on arrive à distinguer un individu trapu d'un individu longiligne. Certains ont les poils brun clair, une femelle Kitaka est quasiment blonde. Donc c'est même des façons de marcher, des attitudes qu'on arrive très bien à distinguer chez des humains. Quand on croise quelqu'un dans la rue de dos, on sait tout de suite que c'est un tel ou une telle. Chez les chimpanzés, c'est la même chose pour nous. Dans un arbre ou au sol, on arrive à dire là c'est Elliot ou Butchaman par exemple.
Butchaman, justement. On va s'arrêter sur Butchaman qui nous emmènera aussi, mais c'est un peu plus tard, sur leur empathie entre eux, hein, et le soutien qu'ils se prodiguent, même quand ils sont handicapés. Donc petit arrêt sur l'image de Butchaman, un chimpanzé adolescent amputé du pied gauche, c'est ça qu'il a perdu dans un piège, enfin il a été plusieurs fois pris,
deux fois pris
au piège, et que votre équipe ougandaise a donc surnommé du nom de Butchaman, qui est celui d'une star du reggae en Ouganda, qui lui a une jambe gauche un peu plus courte que la droite. Allez, on écoute tout de suite sur RFI, Butchaman le reggae man, avec Maggie Kaïma.
Hear this combination, hear we argument, tell the law, let go, bad producer. Edda, Balali, Butchaman, Yabela, Mulasi, Sumula!
La star du reggae ougandais Butchaman avec Maggie Kaïma sur RFI, en clin d'œil à tous ceux qui travaillent avec vous. Et en ce moment, en Ouganda, dans le parc de Kibale, Sabrina Krief, nous sommes donc en votre compagnie. Vous êtes primatologue et vous nous entraînez cette fois dans le versant plus sombre, on va dire, de la vie des chimpanzés comme Butchaman ou comme Aragon. Ce sont deux adolescents chimpanzés au pied gauche amputé que vous suivez dans ce parc de Kibale en Ouganda. Mais il n'y a pas que les pièges, le braconnage qui menace ces communautés de chimpanzés qui parviennent tant bien que mal à s'adapter à la présence croissante des humains sur leur territoire. Il y a aussi tous les autres fléaux qui nous menacent, nous aussi, en particulier les pesticides sur les plants de maïs dont raffolent les chimpanzés. Vous avez, Sabrina, mis en évidence, ça fait l'objet de plusieurs publications scientifiques, à la fois leur ingéniosité à se nourrir la nuit de maïs, mais aussi les malformations, les dégâts irréversibles que les pesticides produisent chez les chimpanzés, un cri d'alarme qui nous concerne tous, on le rappelle, la preuve dans cet extrait du reportage que vous avez tourné et qui a été diffusé la semaine dernière sur France 2 dans l'émission spéciale Pour la Terre.
Pesticides, déchets plastiques, braconnage ou déforestation, depuis des années, Sabrina constate l'impact de l'homme sur les chimpanzés. Si rien ne change, ils auront disparu d'ici 50 ans. Pour observer les grands singes, Sabrina Krief parcourt la jungle durant de longues journées. L'un des principaux dangers qui menacent les primates est invisible. Les équipes de Sabrina Krief vont en chercher les preuves jusque dans les arbres.
Sois prudent.
Ce qu'ils cherchent, ce sont des traces de pesticides. Tout autour du territoire des grands singes, à la lisière de la forêt, se trouvent des champs de thé et de maïs. Résultat, dans l'eau des rivières alentour, on retrouve un cocktail toxique d'une quinzaine de pesticides. Un des responsables est vendu sur tous les marchés de la région. Ce sont ces semences de maïs. Des semences enrobées d'une dangereuse catégorie de pesticides, les néonicotinoïdes. C'est écrit poison ?
Oui, c'est du poison.
Les chimpanzés raffolent de ce maïs toxique. Et sur ces grands singes, les effets sont dramatiques. Dans le groupe étudié par Sabrina, certains grands singes sont stériles. La chercheuse s'interroge sur un lien avec leur exposition aux pesticides. Depuis des années, elle tente donc d'alerter la communauté internationale et de sensibiliser les paysans locaux.
Sabrina Krief, c'est en 2006 que vous avez fondé l'association Projet pour la sauvegarde des grands singes. Vous n'aviez pas encore à l'époque démontré l'effet de tous ces néocortinoïdes sur la vie, la mortalité, les malformations des chimpanzés ou la stérilité des chimpanzés.
En 2006, en fait, on travaillait déjà dans le parc national de Kibale, mais plus au sud, sur une communauté qui est beaucoup moins exposée à ces produits, ces intrants chimiques. Et en fait, on a décidé de travailler sur ce nouveau groupe dans le nord, justement parce que on trouvait que c'était un peu un modèle réduit de tout ce qui risquait de menacer la forêt et les chimpanzés parmi l'ensemble de la biodiversité qui fait partie de cette forêt. Parce qu'il y avait effectivement cette agriculture intensive de monoculture de thé, de bananes, de maïs, etc. Également une route donc, qui traverse le territoire des chimpanzés, qui est une route bitumée avec beaucoup de trafic. La déforestation qui avait eu lieu juste dans cette zone du parc dans les années 70. Et donc, il nous semblait intéressant de comprendre comment les chimpanzés réagissaient, répondaient à ces menaces. Est-ce qu'on allait observer finalement un effet sur leur survie? Est-ce que la densité allait être faible? Est-ce qu'ils évitaient ces zones de bordure avec les humains? Ou bien est-ce qu'ils s'en sortaient bien? Et les premiers résultats ont été plutôt rassurants.
Effectivement, il y avait toujours des chimpanzés déjà dans cette zone.
Les chimpanzés étaient en densité très importante, la plus importante dans l'ensemble du parc, voire la plus importante décrite en Afrique. Mm-hmm. Donc, quelque chose de surprenant. Ils traversent la route, ils ont un comportement qui leur permet de prévenir les accidents, c'est-à-dire qu'ils se dressent sur leurs pattes, ils regardent à gauche, à droite et ils encadrent les individus les plus fragiles, les mères avec les enfants.
Pour traverser la route, ils ont donc conscience, donc ils savent que c'est dangereux.
Ils font bien attention. Mm-hmm. Voilà. Après, il y a toujours des accidents, puisqu'on a certains chimpanzés qui ont été tués sur la route. La même chose donc, quand ils pénètrent dans les champs, quand ils font des incursions pour aller chaparder du maïs, ils sont conscients qu'il y a des risques et donc ils vont parfois décaler leur rythme d'activité en y allant la nuit. Et donc à ce moment-là, comme les rondes sont moins fréquentes par les villageois, bah, ils vont passer plus de temps, ils sont beaucoup plus à l'aise dans les champs, ils consomment directement sur place.
Alors que d'habitude, ils ne se nourrissent pas la nuit, ils dorment la nuit dans leur nid.
Absolument pas la nuit, ils ne sont absolument pas nocturnes. Et quand on s'est rendu compte de ça, donc on a alerté les villageois qui ont commencé à faire des rondes et des patrouilles le soir. Et donc maintenant, on observe qu'ils se réveillent plus tôt. pour aller plutôt à l'aube que le soir.
Donc ils s'adaptent vraiment.
Il y a vraiment une co-adaptation, une co-évolution entre les comportements des humains et des chimpanzés, et c'est tout à fait passionnant. Mais cette menace insidieuse des pesticides, on n'en était pas conscient quand on a créé l'association, donc Projet pour la conservation des grands singes. Et c'est aujourd'hui un autre moyen de montrer que les chimpanzés en milieu sauvage nous sont probablement beaucoup plus utiles qu'ils ne l'ont été dans les laboratoires dans les décennies qui ont précédé. Non seulement donc parce qu'ils nous guident vers des médicaments, mais aussi parce que là, ils nous montrent qu'on a atteint un degré vraiment inquiétant avec ces produits chimiques et que notre proximité phylogénétique, donc le fait qu'on soit pratiquement frères, font craindre vraiment des effets importants pour notre santé.
Oui, donc c'est valable pour la population qui mange aussi ce maïs rouge, hein, ce maïs bourré de néonicotinoïdes. Il n'y a pas que le maïs, vous le disiez, il y a le thé, les bananes.
Voilà, donc en fait, pour l'instant, on n'est pas capable de dire si une des substances est responsable de ces malformations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un cocktail toxique, comme le décrit Barbara Domenech, ma collègue professeure.
Grande chercheuse lanceuse d'alerte
au Muséum d'Histoire Naturelle, qui travaille sur les perturbateurs endocriniens. Quand on collecte cette eau des rivières qui traverse le territoire des chimpanzés, même à 5 km des bordures, on retrouve toujours 15 pesticides différents. Et quand Barbara Domenech et mes collègues mettent leur tétard transgénique qui permettent de détecter les effets sur l'axe thyroïdien, on voit des effets de perturbation endocrinienne, on voit des effets de malformation sur les tétards et aussi des problèmes au niveau des hormones sexuelles. Donc il y a l'axe thyroïdien est l'axe hormonal le mieux conservé dans l'évolution animale. Donc si ça agit sur l'axe thyroïdien des tétards, que ça provoque des problèmes de métamorphose, donc ils ne deviennent pas grenouilles, c'est que ça agit aussi sur le nôtre.
Donc finalement, les chimpanzés là-dedans servent de, terrible de dire ça, mais sont de fait cobayes dans cette forêt et permettent aussi du coup de nous alerter sur les dangers pour nous de tous ces cocktails toxiques.
Voilà, j'espère que ça va être le moyen de nous faire changer nos pratiques, à savoir aussi que ces monocultures, elles sont complètement incompatibles avec la survie de la biodiversité de façon générale et qu'il n'y a pas tant d'efforts à faire que ça pour améliorer les choses. À côté, il y a une concession de thé qui fait de l'agroforesterie et donc ce monsieur cultive à la fois du café, du thé, des tournesols, des arbres, sans aucun intrant chimique, en bio. Et son rendement est excellent. Et les oiseaux viennent, disséminent dans les champs de thé des espèces d'arbres de la forêt, qui sont des espèces autochtones. On n'a pas besoin de planter des pins ou des eucalyptus. Mmh. Et ça fonctionne. Donc notre projet aujourd'hui, c'est d'ici 5 ans, d'essayer de faire connaître ces pratiques et d'essayer de faire une sorte de ceinture autour...
Ceinture vertueuse.
Voilà, autour du territoire des chimpanzés, en espérant que petit à petit, ça se dissémine parce que dans les villages, on voit aussi pour les enfants des problèmes de malformation. Il y a un petit garçon qui a 6 doigts aux mains et aux pieds, un micro-pénis, des problèmes de malformation du visage. C'est une petite fille qui est à 30 mètres de ce petit garçon, des retards mentaux, etc. etc. Et si en France et en Occident, on met parfois ça sur le compte des médicaments, de l'alcool, d'un mélange de choses. Là, on est certain que ni les chimpanzés, ni les enfants dans cette zone-là ne consomment de médicaments, ne fument et ne sont exposés à aucun autre problème que ces pesticides.
Donc c'est vraiment là, grâce aux chimpanzés, il faut écouter les chimpanzés pour nous, pour eux et puis pour nous, les humains, pardon. Dans cette écoute et dans ce combat, hein, j'ai envie de dire, Sabrina Krief, vous êtes un peu vous aussi comme ça, comme j'ai oublié son... Barbara Demnex, cette chercheuse du muséum, vous êtes un peu une lanceuse d'alerte aussi, et vous avez, il y a tout juste un an, au muséum d'ailleurs, avec le, en partenariat avec le muséum, organisé un grand colloque au Palais du Luxembourg à Paris, intitulé « Sauver les grands singes, un enjeu pour l'humanité ». On se rend compte que c'est un enjeu pour l'humanité. Vous l'avez dit, c'est en associant étroitement les populations qui vivent dans ces sites que ça peut marcher et fonctionner. Vous aviez invité à Paris pour cette grande conférence au Palais du Luxembourg, Julius Kagonda, qui est président de l'organisation communautaire Kichida, qui vit sur les pentes du Rwenzori, c'est comme ça qu'on dit en Ouganda.
Oui, ce sont les monts de la Lune et c'est à quelques encablures de notre parc. C'est un endroit magique, c'est la chaîne qui sépare l'Ouganda de la République démocratique du Congo.
Donc dans cet endroit magique, sur ces monts de la Lune, le clan de Julius Kichida a d'ailleurs pour totem le chimpanzé. Je vous propose de l'écouter.
Quand j'étais jeune, dans le début des années 80, mes parents m'avaient dit que les chimpanzés étaient nos plus proches parents. On vivait près de la forêt, et la première fois que je les ai vus, j'ai su que c'était eux. Nous n'avons pas été effrayés. On nous avait dit qu'ils ne tuaient pas les hommes, mais qu'il fallait être prudent. Parfois, ils peuvent vous poursuivre. Nous leur avons parlé, et on savait qu'ils ne nous attaqueraient pas. Nous nous amusions, mais eux savaient qu'on était des humains. Voilà pourquoi notre association sensibilise les communautés. On commence avec nos proches, on leur dit qu'il ne faut pas tuer les chimpanzés. On explique cela quand on est dans les jardins, on parle à nos enfants, on mobilise des groupes et on organise des rencontres pour dire que les chimpanzés ne doivent pas être tués. Ce sont comme des hommes selon notre culture. Et en plus, de nombreuses personnes d'autres pays veulent voir ces chimpanzés. Et s'ils sont protégés, les communautés pourront mieux vivre grâce au tourisme. Et c'est notre message. Il faut mettre en place des initiatives pour encourager le tourisme. Je serais malheureux si les chimpanzés disparaissaient, car premièrement, ils se comportent comme des êtres humains et c'est grave s'ils se sentent en danger. Deuxièmement, traditionnellement, les chimpanzés sont un peu comme des hommes redevenus sauvages. Et s'ils venaient à disparaître, j'aurais l'impression que ce sont des personnes de notre famille, toujours sauvages, qui auraient disparu. Je me sentirais vraiment très malheureux pour eux s'ils disparaissaient. C'est la raison pour laquelle nous encourageons la reforestation pour recréer leur habitat. Ici, malheureusement, beaucoup coupent des arbres pour leurs activités agricoles. Mais nous soutenons la plantation d'arbres pour que les chimpanzés puissent y vivre.
C'est essentiel, Sabrina Krief, de donner la parole, et pas seulement la parole, à tous ceux qui vivent d'eux et dans la forêt.
Oui, bien sûr, et c'était une expérience extraordinaire d'avoir Julius Kagonda avec nous. C'était la première fois qu'il quittait l'Ouganda et même son village. Il a pris la parole au sein du Sénat, après et avec Yves Coppens, avec des sénateurs, avec une honnêteté et une simplicité qui, je pense, a beaucoup touché. Et avec ses mots à lui, il s'est exprimer ce lien familial qui existe avec les grands singes et l'importance que les chimpanzés ont pour son clan, pour sa famille, pour son pays. Et sa force de conviction avec ses mots à lui, moi, m'ont beaucoup émue. Et je pense que, oui, pouvoir les écouter et que ce soit eux qui nous enseignent ça, c'est aussi très important.
Et puis, c'est aussi une manière de nous dire aussi que... Enfin, on vous parlait de famille, de clan, de lien, de nous dire aussi que... Enfin, le titre de votre livre le dit bien, « Mes frères de la forêt ». On est quand même de la même famille, ce sont nos cousins, nos frères, si vous voulez, pratiquement, mais c'est vraiment ça. Enfin,
vous savez qu'on peut recevoir du sang de chimpanzé.
On peut recevoir du sang de chimpanzé.
Donc, enfin, il peut, on a vraiment une proximité incroyable avec eux. Et au-delà de ça, je pense que l'intervention de Julius montre aussi qu'au-delà d'un patrimoine naturel, c'est aussi un patrimoine culturel.
Absolument.
Et aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'on aimerait faire progresser à la fois la conservation et la façon de voir la faune et la flore, c'est-à-dire de montrer à quel point tout ça c'est essentiel et quel rôle les communautés locales ont dans cette préservation.
Ça fait partie de leur vie, enfin c'est leur vie.
C'est leur vie et pour moi c'est aberrant que j'ai le droit de rentrer dans ce parc de Kibale parce que je suis chercheuse et que les villageois en ont été exclus et n'aient toujours pas le droit de pouvoir aller pour herboriser, etc. Certes, il faut protéger les espèces menacées, mais je pense qu'ils sont tout à fait capable de comprendre que certaines espèces sont là pour disséminer et d'avoir une gestion raisonnable de la forêt. C'est quelque chose qui
vous
est capitale.
Vous n'êtes pas pour les parcs nationaux totalement fermés.
Non, et j'espère. Pour ça, hein. Franchement, aujourd'hui, on porte une initiative pour, auprès de l'UICN, donc une motion sur les grands singes qui va être présentée à Marseille en 2020, quand va se tenir le colloque mondial de la nature, qui pour une fois est en France. Donc dans cette motion, on essaye de replacer les communautés au cœur de la conservation et de se dire que les ONG locales ont un rôle capital dans cette préservation de l'environnement, y compris en dehors des aires protégées. On sait qu'il y a plus de la moitié, certains chiffres disent 80% des grands singes qui vivent en dehors des parcs nationaux et des aires protégées. Et dans ces interstices, là, il y a des citoyens qui veulent protéger la forêt pour leur bien-être aussi. Et donc, pour pouvoir lutter contre ces gros lobbies et ces grosses industries, on a besoin d'être tous soudés et on a besoin de protéger le bien-être et le développement humain aussi.
Il n'y a pas les singes d'un côté et les humains de l'autre. Autour de la question pourquoi et comment écouter, allez, on va dire tous ceux qui vivent dans la forêt, hein, sur quatre pattes comme sur deux pattes. Sabrina Criel, vous qui passez la moitié de votre temps à courir derrière vos frères de la forêt, les chimpanzés, vous nous trouvez quand même quelques spécificités à nous les humains, une spécificité qu'a même chanté Bruce Springsteen, vous le citez dans votre ouvrage. Born to run, né pour courir. Allez, on discute après s'être passé entre les deux oreilles. Bruce Springsteen, Born to Run sur RFI. Springsteen sur RFI, Born to Run. Sabrina Krief, ce serait ça notre spécificité humaine. On serait né pour courir, ou en tout cas, comme vous le faites, pour courir derrière les chimpanzés que vous essayez de suivre dans la forêt ougandaise.
Une chose est certaine, c'est qu'ils sont beaucoup mieux adaptés que nous à courir dans la forêt, et que nous, ça s'apparente aussi parfois au fait de ramper, de se faufiler sous les branches, et qu'on a quelques occasions de courir en forêt quand les éléphants nous chargent, mais qu'en général, les chimpanzés à quatre pattes se débrouillent beaucoup mieux que nous en forêt. Par contre, effectivement, nous, on doit s'entraîner à courir sur nos deux jambes quand on est ici à Paris pour pouvoir se maintenir en forme et continuer à les suivre sur les pentes ougandaises.
Parce que ça exige effectivement une certaine forme. On l'a dit, Sabrina Krief, vous êtes une primatologue qui avait mis en avant notamment les productions pharmaceutiques, hein, de ces chimpanzés, mais pas seulement, hein, qui nous montraient à quel point nous en sommes proches, nous les humains, qui sommes capables de les étudier, hein, c'est peut-être la différence, hein, puisque finalement, vous les étudiez, les chimpanzés, ils ne font que vous côtoyer. Mais paradoxalement, nous les étudions et nous les détruisons en même temps, au même moment. Vous êtes très sensible aussi au sort des orang-outans, autre grand singe, dont une nouvelle espèce a été découverte assez récemment, hein, c'était en novembre 2017. Présentation des orang-outans de Tapanuli, découvert donc sur l'île de Sumatra en Indonésie par l'équipe de Yann Singleton.
Il a le poil frisé, une petite tête, et il pousse des cris aigus. Les scientifiques viennent de découvrir que cet orang-outan, qu'ils ont baptisé Tapanuli, est une nouvelle espèce, la première confirmée par la science depuis 1929. Il vit en Indonésie, dans le nord de Sumatra, dans la région de Batang Toru. Une découverte de taille. Jusqu'ici, on pensait que ce singe connu de la population locale était de la même espèce que ceux de Bornéo. C'est en comparant leurs dents et leurs crânes que les biologistes ont pu déceler des différences notables.
On a fait des analyses à plusieurs endroits. On les a étudiés et on a vu qu'ils étaient différents sur le plan génétique et morphologique, ainsi que sur leur mode de vie.
En effet, les Tapanuli se nourrissent de catégories de feuilles et de certains fruits que les autres espèces ne mangent jamais. Ils seraient à peine 800. Mais cet orang-outan si rare est particulièrement vulnérable. L'espèce pourrait même disparaître d'ici une décennie. Victime de la déforestation et du braconnage.
Extrait du reportage diffusé sur France 2 en novembre 2017, donc au moment de la découverte de cette nouvelle espèce d'orang-outan de Tapanuli. Étrange paradoxal que notre espèce humaine, qui découvre, caractérise une nouvelle espèce d'orang-outan, en même temps que nous, humains, sommes en train de la menacer, de la détruire. Hein.
Ces squelettes qui ont permis de décrire cette nouvelle espèce, en fait, ont été collectés dans des plantations de palmiers à huile. Donc, c'était déjà des victimes des humains. Et effectivement, à peine on commence à découvrir leurs spécificités, on sait déjà qu'elles sont gravement menacées, pas uniquement par la déforestation, aussi par la construction d'infrastructures. Dans cette zone-là, il y a déjà une route, un barrage qui est en construction. C'est effectivement alarmant, inquiétant, et je pense qu'aujourd'hui on se rend compte que à des milliers de kilomètres ici en France, en Occident, mais aussi en Afrique, on peut jouer un rôle en tant que consommateur, parce que on a bien pris conscience que l'huile de palme dans les pâtes à tartiner, mais également dans les agrocarburants, joue un rôle essentiel par leur
production, oui, la monoculture,
voilà, dans la destruction de l'habitat des orang-outans. Mais il en va de même pour le café, le cacao, le thé qu'on consomme chaque matin au petit déjeuner. Puisque si on essaye de choisir un thé ou un café produit de façon durable, on va lutter contre la pauvreté, contre la misère. On luttera en même temps contre le braconnage, parce que quand on a le choix, on peut aussi se procurer de la viande domestique. Par exemple, en Ouganda, il y a des chèvres et des poulets. Mais si on a 1 € par jour parce qu'on travaille dans une plantation de thé, on n'aura pas de quoi s'acheter de la viande
et on ira braconner.
Beaucoup plus facile de braconner.
On le voit bien, tout est lié, votre combat le montre bien, enfin votre combat, vos études, votre recherche aussi, avec ces chimpanzés, parce que j'ai envie de revenir là-dessus, vous travaillez avec eux, Sabrina Krief. J'ai l'impression, quand on vous lit, quand on suit les aventures, alors je ne sais plus leur nom, mais de Bouchaman qu'on a eu tout à l'heure, ou Elliot, ou de ces femelles incroyables, on se rend compte que vous travaillez pas tellement sûr, les chimpanzés, vous travaillez avec.
Oui, bien sûr, c'est eux qui m'orientent, qui me font découvrir. Ma recherche est guidée par eux. J'ai commencé en tant que jeune vétérinaire à m'intéresser d'abord aux maladies des grands singes, en me disant que peut-être j'en apprendrais plus sur les maladies des humains. Mais petit à petit, c'est en les côtoyant, en vivant avec eux, que ma recherche s'oriente et les pistes qui m'ont ouvertes autour de cette question de la pollution, je pense, sont capitales. Donc c'est un peu un travail main dans la main, à la fois pour les aider, parce que je pense qu'il est très important de préserver cet habitat pour eux et pour l'ensemble de toutes les autres espèces. Encore une fois, sont les ambassadeurs de ces forêts tropicales. Forêt tropicale indispensable pour les populations locales et pour nous aussi, pour notre climat, pour l'ensemble de la planète, mais aussi pour notre santé. Enfin, c'est tellement Ça me semble tellement évident, tellement clair que c'est un lien qui existe et qu'il faut réussir à préserver. Que voilà, ces quelques pages, j'espère, pourront me permettre de les faire partager.
Ouais, de donner envie de partager. Sur quoi vous allez travailler, puisque vous allez repartir, hein, je pense, en Ouganda cet hiver, c'est ça? Sur quoi vous allez travailler maintenant, puisque vous connaissez vraiment toutes ces communautés de chimpanzés, enfin, vous les reconnaissez, je ne sais pas si... Ils savent quand vous revenez, enfin, ils réagissent un peu autrement, ou quand vous êtes partie longtemps que vous revenez? Alors, Sabrina,
la façon dont on se rend compte qu'ils nous reconnaissent, c'est justement parce que ils ne changent pas de comportement. Quand on arrive avec un nouvel étudiant ou quand un nouvel assistant s'intègre dans l'équipe, là, on se rend compte qu'il y a de la curiosité, qu'il y a parfois de la méfiance ou
par rapport
un peu de vigilance,
aux nouvelles
par rapport
qui arrivent.
Aux nouveaux visages et aux nouvelles façons d'être.
Ils reconnaissent les visages, donc.
Ils reconnaissent ces visages, et je pense qu'ils reconnaissent aussi les attitudes, nous, par rapport par exemple aux braconniers ou aux autres personnes qui pénètrent dans la forêt, on a à peu près tous la même allure, des sacs à dos, on marche à peu près au même rythme, voilà, on parle à peu près tous sur le même ton, et donc ça fait qu'on fait partie d'un ensemble familier qu'ils ont bien identifié et qu'ils distinguent complètement des villageois, par exemple, des personnes dans les champs, de ceux qui sont sur la route. Et malgré tout, on peut observer quand même qu'ils nous utilisent. C'est-à-dire que quand soit ils vont chaparder le maïs et si jamais on n'est pas loin, ils vont venir se réfugier derrière nous si jamais les chiens arrivent. La même chose quand il y a des communautés voisines avec lesquelles ils sont en conflit, on forme une espèce
de chimpanzés, ouais, cette fois-ci, d'accord.
Chimpanzés. On forme une espèce de rempart, comme s'ils savaient que les autres vont avoir peur de nous,
mais ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose à vos côtés.
Exactement.
Et sur quoi vous allez travailler là, avec eux, justement, en Ouganda?
Donc là, on a plusieurs sujets de recherche, l'un en particulier qui porte sur les arbres qui sont utilisés pour construire des nids, donc un peu dans la continuité de ce qu'on faisait sur l'automédication. Là, il s'agit de savoir si les chimpanzés sélectionnent certaines espèces d'arbres pour construire chaque soir un nouveau nid.
Oui, parce qu'ils construisent chaque soir un nouveau nid dans les arbres.
Exactement. On sait qu'il y a une dizaine d'espèces parmi les 120 qui sont présentes et abondantes dans la forêt, qui sont sélectionnées, ce ne sont pas les plus abondantes, qui sont utilisées. Donc on cherche à savoir si ce sont pour leurs propriétés mécaniques ou alors pour leurs propriétés chimiques, donc tout particulièrement de propriétés répulsives contre les moustiques, contre les tiques, qui sont les vecteurs des principales maladies, qui sont aussi vecteurs d'inconfort, hein, parce qu'on sait que les pouillages occupent beaucoup de temps aux chimpanzés, même si c'est un acte social, ça consiste quand même à enlever les parasites, et puis les moustiques, parce qu'ils leur transmettent une forme de paludisme. Donc voilà, ça c'est un des sujets de recherche qui va nous occuper.
Et qui pourrait vraiment nous servir beaucoup à nous humains, puisque
également,
s'ils ont sélectionné les bonnes écorces qui les protègent des moustiques, ça peut nous servir à nous aussi.
C'est l'idée, exactement, de pouvoir trouver des nouveaux répulsifs contre les moustiques et les tiques. C'est aussi des parasites et des vecteurs de parasites qui vont être de plus en plus présents avec le changement climatique. Donc il faut s'armer et les chimpanzés sont capables de nous orienter vers les bonnes substances.
Vous retournez quand vers vos frères de la forêt, les chimpanzés, Sabrina Krief?
Probablement en fin décembre ou début janvier.
Merci en tout cas infiniment d'être venu avant en direct partager et nous sensibiliser au sort des chimpanzés, mes frères de la forêt, je le rappelle. C'est le titre de cet ouvrage très inspirant, drôle aussi, dans lequel vous partagez vraiment votre carnet de bord, préface signée Nathalie Baye, que vous avez entraînée, l'actrice que vous avez entraînée sur la piste des chimpanzés. C'est paru aux éditions Actes Sud et puis il y a des superbes illustrations de chimpanzés croquées par une de vos étudiantes, je crois, on va citer son nom, Chloé Couturier. Et puis je signale aussi autour du thème réparer, réinventer, réenchanter, le forum du CNRS qui va se dérouler ce week-end du vendredi 25 au 27 octobre à la Cité des Sciences à Paris. L'occasion de rencontrer des chercheurs du CNRS qui travaillent, comme vous Sabrina Krief, à réparer, à réinventer, à réenchanter de nouveaux mondes. Il y en aura pour tous les goûts. C'est à suivre en direct ou en podcast aussi sur le site du CNRS et de son forum Nouveau Monde. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour nous interroger sur les défis de l'intelligence artificielle avec celui qui l'a révolutionné, Liane Lequin, lauréat du prix Turing, directeur du laboratoire de recherche en IA de Facebook, qui sera en direct en exclusivité pour vous, chers amis curieux auditeurs.